Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Épisode 1, prologue.
France Inter, 1829 mètres onde longue, il est 8h. Interactualité, Jean-Claude Turgeman.
Bonjour, malgré le soleil de juillet, la foule sur les routes et les plages, les nouvelles sont suffisamment abondantes pour réduire la place de ces informations traditionnelles de l'été que sont les concours de sable, les croisières présidentielles ou les sorties en public des vedettes de cinéma. Louis Armstrong est mort hier à New York, le monde entier lui rend hommage puisqu'il personnifiait le jazz.
C'était il y a 50 ans, presque jour pour jour, la voix la plus célèbre du jazz rendait son dernier soupir, laissant une carrière que beaucoup d'artistes rêvent de mener, et pas seulement dans le jazz. Une carrière difficile à résumer tant elle est longue, foisonnante, prolifique, mais ça ce n'est rien à côté de la vie qu'a menée Louis Armstrong, musicien extraverti mais très avare de détails sur sa vie privée. Et pourtant, imaginez un peu l'importance du monsieur, une véritable machine à vendre des disques, donc à faire du cash, ça c'est bien. Premier afro-américain à avoir publié son autobiographie, premier jazzman en couverture de Times Magazine. La première fois que le jazz a résonné au Metropolitan Opera, c'était la trompette de Louis Armstrong. Il est même le premier jazzman intergalactique, puisque son Melancholy Blues de 1927 est enregistré sur le fameux Golden Record, qui se balade dans l'espace depuis quelques 44 ans. Et puis, plus récemment, eh bien, il y a eu ceci.
Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.
En mars dernier, la bibliothèque du Congrès à Washington, gardienne de milliers de trésors artistiques américains, a sélectionné 25 enregistrements, 25 sur 900 propositions choisies pour leur importance culturelle, artistique ou esthétique. Dont ce disque de 1938, l'un des plus célèbres que vous venez d'écouter, du plus célèbre des Néo-Orléanais. Ce sont ces nombreux mystères que nous allons percer. Pour comprendre Louis Armstrong, il faut se rendre là où il a vu le jour, là où lui et ses modèles ont débuté. Et ça commence par un atterrissage à l'aéroport international. Louis Armstrong, évidemment, porte d'entrée d'une ville dont personne ne connaît les maires, mais tout le monde connaît les musiciens d'ailleurs, et surtout celui-là.
Armstrong est toujours présent dans la ville. Il est tellement présent, vous ne vous imaginez même pas. C'est comme l'air qu'on respire ou le Mississippi qui suit son cours. C'est quelque chose qui va de soi. Les gens jouent sa musique, les gens le citent. Il y a toujours des trompettistes ici, vous savez, d'excellents trompettistes, les meilleurs du monde, qui jouent la musique d'Armstrong ou la musique influencée par lui. Certains ont la même attitude. Il est vraiment là, autant que l'air qu'on respire. Vous n'imaginez même pas à quel point.
Alors lui, il connaît son affaire. C'est David Cunyon, le conservateur du musée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et pourtant, précise-t-il, le jazz n'est pas né d'un coup de baguette magique avec Armstrong. Alors jusqu'où plongent les racines de cette musique ? Pour tenter de le savoir, il faut aller traîner vers Congo Square, une place en partie ombragée, désormais intégrée à un grand parc baptisé, et bien baptisé le parc Louis Armstrong quand on vous dit qu'il est partout à la Nouvelle-Orléans. Et s'imaginer vers 1859-1860, un dimanche, c'est important. Congo Square imaginé par Terence Blanchard, le seul endroit où les esclaves étaient autorisés à jouer et à danser, seulement les dimanches, autorisation accordée en 1817 par la municipalité. Et par conséquent, eh bien, les esclaves à la Nouvelle-Orléans n'avaient pas le droit de se rassembler ailleurs, ce qui permettait aussi aux maîtres de prévenir toute sédition. De toute cette musique, point d'enregistrement. Edison et son phono sont arrivés trop tard. Il a fallu attendre les années 50, 1950, pour que les musiciens se penchent sur ce pan d'histoire. Et faute d'avoir le moindre témoignage oral ou enregistré, eh bien, ils ont dû imaginer à quoi pouvait bien ressembler cette musique. Duke Ellington s'est prêté à l'exercice. Armstrong, jamais.
Square. Here the crowd is congregated. They all have such strange, faraway looks in their eyes. You can almost smell violence and fear. Maybe afraid to be there, or maybe afraid not to be there. Stage is set. We await the rising of a curtain that is not down or even there. There on the fringe of the clearing, a girl. Her face is pretty and childlike. The rest of her is pretty too, but not childlike. Her feet are so motionless you get the illusion that the tree stump in the center of the clearing is inching itself toward her. She is oblivious of the waves of desire generating in the crowd, thrilling to every gentle touch of the drum. Another drum, many drums in counter rhythm, and for every drum we hear, there's a woman to see. Their gyrations accelerate to a frenzy and a sudden stop, and they all go scurrying out of the clearing. Entrance of the most primitive woman. This, of course, does not mean simple or elementary. She is an exciting, ornately stimulating seductress with patterns of excitement and the power to hypnotize and enervate the will toward total abandonment. This, if anybody, must be none other than Madame Zage. Her every move is with the beat of the drum, looking straight up to the moon, which highlights her tapering shoulders and throws tapering black shadows. Shadows rolling and reaching up from the ground in dance formation. There seems to be a four-way thing going with her, the moon, the drum, and her pixelated black shadow wallowing around her. When suddenly a monstrous man leaps out of nowhere, snatches her up bodily and carries her out of the clearing. They disappear, swallowed up by the mists, which are now swallowing up the night. In the distance, a drumbeat fades away, and we know it is about time now for the Mississippi River to look like a puddle of pecan blue pudding, pistachio and indigo, and the sun, a neon rose lollipop, is being drawn up over the horizon into a fizzy bunch of grape-colored clouds.
Bonjour, je suis Dr. Michael White of New Orleans, jazz clarinetist and composer, and professor at Xavier University of New Orleans. on France Music.
Alors lui, c'est Michael White, le docteur Michael White, sommité de la musique néo-orléanaise. Vous l'entendrez souvent dans cette série.
The music in Congo Square that people talk about was authentic African.
La musique de Congo Square, c'était des tambours et des chants africains traditionnels avec de la danse. Et puis, il y avait des instruments à cordes, des percussions et ainsi de suite. Mais officiellement, bien que cette musique ait existé depuis le XVIIIe siècle, elle a été interdite avant la guerre de sécession. Donc, Louis Armstrong n'a pas tant écouté la musique de Congo Square, mais il a été influencé par la musique qui en est issue, parce que la tradition n'a pas disparu, elle a continué dans l'underground de la Nouvelle-Orléans. Mais cette idée de célébration africaine avec des danses, des parades, de la musique, ça existe toujours à la Nouvelle-Orléans encore aujourd'hui. Donc Armstrong a été influencé par ça. Où est-ce qu'il a entendu ça? Eh bien, dans la rue.
Autre influence, peut-être qu'en ces années 1860-61, les percussions de Congo Square se mêlaient aux airs d'opéra, car à moins d'un kilomètre de là se tenait la French Opera House, où la société fortunée de la ville, blanche, parfois créole, venait écouter les grandes œuvres du vieux continent. Car avant New York, avant Chicago, c'est là qu'étaient créés les opéras européens aux Amériques. Les premières américaines de Mireille, du Tribut de Zamora, du Cid, furent données à la Nouvelle-Orléans. Et il faut imaginer le fameux air « Ah que j'ai froid » extrait du Pardon de Ploermel, lui aussi créé là-bas, chanté dans la moiteur louisianaise avec le Mississippi pas loin en 1861.
J'ai froid et que j'ai mal, hélas, ah que j'ai, ah ah ah, ah que j'ai froid, ah 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 que j'ai mal, ah ah que j'ai froid, ah ah que j'ai peur. Chantons, chantons pour nous donner du cœur, chantons pour nous donner du cœur. La 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 la. Tra la 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 la. Le dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Avec le dimanche aussi, la semaine est terminée, terminée. C'est ainsi toute l'année. C'est ainsi toute l'année. C'est ainsi toute l'année. Ah 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 que j'ai froid, ah 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 que j'ai peur, ah 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 que j'ai froid, ah 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 que j'ai peur. Chantons, chantons pour nous donner du cœur, chantons pour nous donner du cœur. Tra la 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 la, tra la 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 la. L'enfer et le paradis, Dieu le Père et Dieu le Fils, chacun suit sa destinée, on ne parlera sans mieux.
De l'opéra dans une émission de jazz, allez avouer, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. En tout cas, on peut vous dire que quand nous sommes allés préparer l'émission à la Nouvelle-Orléans, il ne faisait pas froid du tout. La French Opera House a été rasée en 1919, mais il est possible que le jeune Louis Armstrong ait entendu des bribes, par exemple, du Don Quichotte de Massenet, Michael White.
À un certain moment de sa vie, Armstrong disait qu'il écoutait des enregistrements de musique classique, mais à la Nouvelle-Orléans, il y avait tous les genres de musique. Donc, il est tout à fait vraisemblable qu'il ait entendu de la musique classique. En tout cas, il a entendu des enregistrements. Mais peut-être qu'il a entendu des musiciens faire de la musique classique aussi. Des orchestres classiques, de la musique de chambre, des chanteurs d'opéra.
Musique d'ascendance africaine ou d'ascendance européenne, donc cohabite dans ce bouillon musical où le jazz n'est encore qu'un embryon. celui qui personnifie le mieux ce mélange, c'est Louis Moreau Godshalk, né en Louisiane d'un père britannique, compositeur de ce morceau pour piano baptisé Bamboula, où se marient les influences néo-orléanaises. Alors étrangement, c'est à Paris qu'il a été créé vers 1849, preuve des échanges musicaux incessants entre l'Europe et la Louisiane.
Thank you. France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Magnifique morceau sous les doigts du pianiste Eugene Liszt. Allez, un peu d'histoire. En 1861, la Louisiane fait sécession et lorsque les États de l'Union finissent par s'imposer et à faire abolir l'esclavage dans les États confédérés, comme le Texas, la Floride, l'Alabama, la Louisiane, eh bien c'est sur le papier seulement, car ces États instaurent un système qui va perdurer un siècle, la ségrégation, inscrite dans les lois Jim Crow, est basée sur ce credo « séparés mais égaux », qui évidemment ne fonctionne pas. Et Louis Armstrong, 40 ans plus tard, eh bien naîtra sous ce système et ne le verra s'amenuiser qu'à la fin de sa vie, alors que les jeunes Afro-Américains obtiendront les droits civiques. Mais alors, au compte-gouttes, hein.
Bon Johnson told me to. This old Jim Crowisms did bad luck to me and you. I've been traveling from toe to toe. Everywhere I have been, I find some old Jim Crow. One thing, people, I want everybody to know. You're gonna find some Jim Crow every place you go. Down in Louisiana, Tennessee, Georgia's a mighty good place to go. And get together, break up this old Jim Crow. Break it up now. I told everybody over the radio, make up the mind and get together, break up this old Jim Crow. I'm gonna tell you people something that you don't know. It's a lot of Jim Crow in a moving picture show. I'm gonna sing this verse, I ain't gonna sing no more. Please get together, break up this old Jim Crow.
Où que j'aille, je retrouvais ce vieux Jim Crow, chantait le guitariste Led Belly, lui aussi d'ailleurs louisianais. Déjà à cette époque existe l'une des traditions les plus fortes et uniques de la Nouvelle-Orléans, dans laquelle d'ailleurs tous les jazzmen ont baigné.
La tradition des funérailles remonte à la nuit des temps et plonge ses racines en Afrique de l'Ouest. La tradition du cortège néo-orléanais, c'est quelque chose qui remonte très loin. À l'époque, c'était plus une tradition de fanfare que des orchestres habituels.
Thank you.
Cette tradition musicale est très documentée dès les années 1820, mais il a fallu attendre les années 1950 pour qu'elle soit enregistrée sur place. Quelques jeunes fans de jazz sont rendus à la Nouvelle-Orléans pour immortaliser le répertoire et pour enregistrer des musiciens qui, pour certains, jouaient depuis la fin du 19e siècle. C'est ce que vous venez d'entendre dans ce morceau intitulé « Sing On ». Ensuite, les jazzmen, néo-orléanais en première ligne, ont intégré ces marches entendues dans leur jeunesse dans leurs enregistrements commerciaux. Armstrong n'y a pas coupé dans son célèbre disque New Orleans Functions, qui a été sassé et ressassé. Mais les compères Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, Albert Nicholas, Sooty Singleton, légèrement plus âgés que le grand Louis, l'ont devancé. Ils imitent la marche funèbre, l'oraison et le retour triomphal, qui ressemble plus à une danse qu'à une marche. Des cendres à la cendre, de la poussière à la poussière, si les femmes ne te tuent pas, l'alcool le fera.
Ashes to ashes, dust to dust, if the women don't get you the whiskey must. Just cut him down.
Baby Dodds, batteur de renom et collègue d'Armstrong, par exemple, sur ses premiers disques, a participé à ces fameux cortèges funéraires, tout comme le trombone Kid Ory et Louis Armstrong lui-même, alors jeune musicien vers 16 ou 17 ans. Nous sommes maintenant dans les années 1880, ces fanfares sont reines à la Nouvelle-Orléans, les instruments sont bon marché car beaucoup sont des reliquats de la guerre de sécession, des surplus abandonnés par l'armée, donc facile d'acquérir un cornet cabossé mais moins facile de le maîtriser. Et puis il n'y a pas que ça, souligne Greg Lamboussi, le directeur du musée du jazz.
Des orchestres à cordes, avec des banjos, des contrebasses et même des batteries. C'est le moment où les batteries commencent à évoluer. Un peu avant le début du siècle, il y avait un joueur de caisse claire et un joueur de grosse caisse qui faisait aussi de la cymbale. Et ça agit sur le son du jazz. Et encore, ce n'était pas vraiment du jazz, c'était plus un orchestre qui jouait du ragtime.
Les orchestres à cordes fleurissent aussi, jouant des danses comme des polkas, des valses, mais transposant aussi des ragtime sur leurs instruments. C'est pour ces orchestres de danse qui, eux, sont statiques, contrairement aux fanfares qui défilent, que naît un instrument créé pour le jazz et par le jazz, la batterie.
Thank you.
Ce titre, Circus Day in Dixie, est un exemple de batterie, par exemple, on en parlait juste avant, intégrée à un orchestre à cordes. Le disque date de 1916, mais il est formidablement bien enregistré, formidablement bien enregistré. Les musiciens ne sont pas de Louisiane, mais pour cet ensemble de danse, plus besoin de deux ou trois percussionnistes, hein, d'une caisse claire, d'une grosse caisse et puis d'une cymbale éventuellement par-dessus. Un seul, désormais, suffit et il maîtrise le tambour, la caisse claire, il maîtrise la cymbale et les woodblocks. Il n'y a pas de grosse caisse, mais certainement qu'il devait l'utiliser en public. Les premiers maîtres de la batterie néo-orléanaise s'appellent Didi Chandler, Papa Jack Lane et Louis Cottrell Senior. Et voilà comment s'opère la transformation. Les fanfares étoffent leur répertoire, intègrent des morceaux de danse et deviennent peu à peu des orchestres statiques pouvant intégrer bien des cordes et transformer deux musiciens en un avec le batteur. Là, nous sommes vers 1895-98. Et puis, il y a cette figure mythique, née avec une trompette d'argent dans la bouche. Il en jouait même avant d'en parler, selon Duke Ellington.
Born with a silver trumpet in his mouth. Played the horn before he talked. Born on the afterbeat. Patted his foot before he walked. Then Buddy Bolden tuned up, you could hear him across the river. He woke up the working people and kept up the easy liver. Call him, Buddy Bolden. Calling his flock. Here they come.
Jump, jump over the moon. Hey, buddy boy.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Il est considéré comme le premier musicien, mais en réalité, c'est difficile à dire. Il y a tellement de personnes avec tellement d'influence qui ont contribué à faire émerger cette musique totalement nouvelle. Ça ne veut pas dire que Buddy Bolden n'était pas un grand inventeur ou un grand musicien, mais il a dû être influencé lui aussi. Ça n'empêche, il est considéré comme l'un des pionniers.
L'explication de Greg Lamboussi, une fois de plus, le directeur du musée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Donc c'est bien de lui qu'on parle, de Buddy Bolden, ce cornettiste légendaire, parfois présenté comme l'inventeur du jazz. Rien que ça, là c'était l'orchestre de Duke Ellington qui imaginait ce que pouvait être la musique de Buddy Bolden. Évidemment, on n'en sait rien. À la trompette, il s'était Clark Terry, il me semble. De lui, en tout cas, de Bolden, aucun enregistrement, aucun écrit, rien. Si ce n'est une seule mauvaise photo. Une absence d'information qui renforce ce côté légendaire. Alors à quoi pouvait bien ressembler le style de Bolden? Eh bien les spécialistes, les historiens, les amateurs de jazz cherchent, se creusent la tête depuis maintenant plus d'un siècle, dont tant de musiciens d'ailleurs se sont réclamés de lui, de Bolden, sans pour autant l'avoir connu. Wynton Marsalis a interprété la musique du film, un film intitulé Bolden, sorti en 2019, une biographie romancée pour laquelle il a fourni une vision d'artiste de ce que pouvait être son répertoire. Wynton Marsalis avec une collective qui semble bien évoluer pour une fin de 19e siècle. Louis Armstrong assure se souvenir, lui, de Buddy Bolden. Il l'écrit d'ailleurs dans son autobiographie « Ma vie, ma Nouvelle-Orléans » parue en 52 en France. Il déclare « Évidemment, c'était un grand musicien, mais je trouve qu'il soufflait trop fort. Buddy Bolden était brutal et ne me touchait pas. » Voilà ce que dit Armstrong de Bolden. Mais l'a-t-il vraiment entendu? Alors ça, rien n'est moins sûr. Le musicien légendaire a cessé de jouer en 1907. Et en 1907, le jeune Louis avait alors 6 ans. L'a-t-il réellement vu, réellement entendu? Ou alors est-ce qu'il enjolive sa propre mémoire, comme il l'a souvent fait? Bolden a été ensuite interné dans une structure psychiatrique dont seule la mort l'a tiré 24 ans plus tard. Toujours est-il que lorsqu'on est un jazzman néo-orléanais, ça fait toujours bien sur le CV de rendre hommage à Buddy Bolden. N'est-ce pas, messieurs Béchette, Morton, Marsalis et même le grand, là, le baraque, et comment il s'appelait? Monsieur Armstrong, évidemment.
Thank you. you're dirty, I'll take it away. I thought I heard Buddy Bolden say, I heard Buddy Bolden say.
Un extrait du film New Orleans de 1947. Mais le vrai maître d'Armstrong, ce sera King Oliver, son aîné de 16 ans. Ses premières émotions au cornet, c'est Oliver qui va lui procurer. Toujours dans son livre Ma vie, ma Nouvelle-Orléans, Armstrong se souvient de l'avoir écouté tout gosse. Quelle technique, quelle générosité. Il ne tarit pas d'éloges sur le King. Dans une moindre mesure, Bunk Johnson l'a aussi inspiré. Le voilà d'ailleurs, le vieux Bunk, un vétéran né vers 1880. La date est incertaine. C'est vrai qu'avec ces jazzmen, on n'est jamais sûr non plus. Le morceau, c'est Careless Love. Careless Love, un titre que Bolden avait à son répertoire. Cet enregistrement date des années 40, lorsque Bunk Johnson a été redécouvert, ça on le racontera dans les émissions suivantes. Une rencontre entre Bolden et Johnson, c'est possible, une rencontre Bolden-Armstrong, beaucoup moins. C'est dans ce chaudron bouillonnant, à la fois musical, social, linguistique, car on parle espagnol, français, anglais, que le messie du jazz va bientôt naître, alors pas dans une étable, mais guère mieux, dans une zone mal fréquentée, surnommée le champ de bataille, entouré non pas d'un âne ni d'un bœuf, mais plutôt de maquereaux et de chacals. Ça, c'est pour demain, la naissance et l'enfance de Louis Armstrong. En attendant, allez, chante Let Belly.
Way down in New Orleans, I saw the rising sun. I've been the run of a many boys, and be your God for one. Way down in New Orleans, I saw the rising sun. I've been the run of a many poor boy, and be your God for one. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that old house and you only take all the rising sun. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that old house and you only take all the rising sun. Go tell her now. Rockin'
of my life beneath the rising sun. I'm going back to New Orleans, 'cause my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising.
Going back down now. Yeah. Yeah. Go back.
Ainsi s'achève ce premier volet de la série Un été avec Armstrong. Aujourd'hui, à la réalisation, nous avions Sophie Pichon. Derrière la console, Xavier Atto, qui a peut-être des crampes au doigt maintenant. Pour le site, Emmanuel Lacaze et Aurore Denisot. Et puis maintenant, et bien sûr, France Musique, il est 19h presque pile. C'est l'heure de Jazz Ladies au sommet avec Alex Dutille.